En ce 20 mars, c'est la fête de quelques bienheureux, dont des Dominicains. Et c'est aussi la fête d'un saint qui me plaît beaucoup, mais je vous réserve ça pour l'an prochain. C'est un laïc, un ermite, un homme politique extraordinaire en Suisse, qui est un des plus grands saints suisses, sinon le plus grand, c'est Nicolas de Flux, qui est mort en 1487. Mais j'ai pensé aujourd'hui vous parler en particulier d'une sainte absolument inconnue, sainte Photine, mais elle est très connue par ailleurs quand on l'appelle la Samaritaine. Oui, il y en était question dans la liturgie, non pas de dimanche dernier, mais de l'autre dimanche, hein, selon l'évangile magnifique sur cette rencontre de Jésus au puits en Samarie. Il veut de l'eau, il a soif, et la Samaritaine vient vers lui, puis le dialogue est de toute beauté. C'est un des plus beaux dialogues spirituels qui soit dans nos évangiles. Hein. Et cette Samaritaine, d'après les Grecs, s'appelait Sainte Photine. Je vous parlerai d'autres saints, donc. Mais je vous parlerai aussi des deux fils de Sainte Photine, Saint Joseph et Saint Victor, car elle était mère de famille. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je lisais ces jours-ci une belle réflexion de saint Augustin, qui parlait aux catéchistes de son temps. Il dit, « Quoi que tu racontes, écoute-le, ou rap plutôt, quoi que tu racontes, raconte-le de manière que celui auquel tu parles, en t'écoutant, croit. En croyant, espère. Et en espérant, aime. » C'est très beau, saint Augustin. Il a plus de 1500 ans. Notre Samaritaine, Sainte Photine, P-H-O-T-I-N-E, était cette femme de Samarie, donc la Samaritaine de l'Évangile d'il y a 10 jours. Il en est question, donc, au 4e chapitre de l'Évangile selon saint Jean. On y donne dans le ménologue de l'empereur Basile. Le ménologue de l'empereur Basile, c'est un martyrologe, si vous voulez. Comment dire, une liste de vies de saints, ou une liste aussi, souvent même rien que des noms de l'endroit où ils sont morts. Souvent, on raconte pas grand-chose. Mais pour Sainte Photine, voici ce que racontent les Grecs, donc, dans le ménologue de l'empereur Basile. Voici les détails. Je vous fais cette petite lecture qui n'est pas très longue. C'était sous la persécution de Néron, après le martyre des saints apôtres Pierre et Paul, donc évidemment au 1er siècle, c'est évident. Cette femme, Photine, avec son fils Joseph, se trouvait à Carthage, en Afrique, où, dit-on, elle prêchait la foi du Christ. Hein? Étonnant, cette femme prêchait la foi du Christ. Son autre fils, Victor, après avoir combattu vaillamment, devint chef de la milice. Alors, il a reçu l'ordre, quoi, de mettre à mort tous les chrétiens de Galilée. Il va y en avoir beaucoup, quand même. Tous les chrétiens de Galilée. Et le texte continue en disant, « Mais au lieu de remplir ce mandat, il se mit à enseigner lui-même la foi chrétienne, comme sa mère. » La Samaritaine. Il convertit, dit-on, Sébastien, et pas Saint Sébastien, un Saint Sébastien. Et pour ce motif a été arrêté et traduit avec d'autres devant le tribunal de l'empereur, là, de Néron. L'empereur a fait crever les yeux à plusieurs des accusés. Il a emprisonné ou crucifié les autres. Il a fait attacher la Samaritaine, Sainte Photine, à deux arbres rapprochés l'un de l'autre. Et je m'excuse du détail, mais c'est ce qu'on dit dans ce vieux texte. Donc, attachés à deux arbres rapprochés l'un de l'autre, et qui, en s'écartant, ensuite l'écartelèrent. C'est un martyr abominable. D'autres, disent le texte, ont été décapités. Sainte Photine a terminé ses jours dans la prison, où elle est demeurée longtemps enfermée. On croit, pour terminer ce récit, que le crâne de Sainte Photine était conservée à Rome, à l'abbaye Saint-Paul par les moines bénédictins du Mont Cassin. Et nous passons maintenant au bienheureux Ambroise de Sancédonie. C'est un dominicain. Mais quel dominicain, hein? Il n'est peut-être pas canonisé, mais c'est un très grand dominicain, un grand théologien, un grand prédicateur, qui est mort en 1286 et qui a donc connu saint Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin, le chanceux. Ambroise de Sancédonie, ça s'écrit S-A-N-S-E-D-O-N-I. Donc Ambroise est né à Sienne, en Italie, belle ville Sienne, à visiter. Il y a le tombeau Sainte-Catherine de Sienne. Alors, il y a tellement de choses à voir à Sienne. C'est, les musées, c'est superbe. Très belle ville. Avec une cathédrale curieuse, avec des lignes noires et blanches, c'est spécial. Donc, il est né à Sienne, en Italie, le 16 avril 1220. Et chose absolument étonnante, cet Ambroise était tellement laid, tellement laid, tellement contrefait, que la vue de son pauvre petit corps provoque chez tout le monde une certaine horreur, mais aussi de la compassion, heureusement. Alors il est confié à une nourrice, et au bout d'un an, pendant que la nourrice le tenait dans l'église de Sainte-Madeleine, desservie par les dominicains, il y a eu un changement miraculeux qui s'est produit dans tous ses membres. Et c'est bientôt connu dans toute la ville de Sienne, tout le monde en parle. C'est un miracle tellement étonnant qui pourra nous étonner peut-être aujourd'hui, mais j'ai entendu dire de choses semblables. Je connais le cas d'un jeune Québécois qui, s'approchant de la cuisinière, ou de la table, si je me souviens plutôt de la table, a renversé sur lui de l'huile bouillante. Et brûlé de façon épouvantable, c'est une religieuse qui m'a raconté ça. Il y a 2 jours, une sœur de l'Immaculée Conception, et qui m'a dit que, d'un seul coup, cet enfant avait été guéri par sa mère, qui lui a appliqué de ce qu'on appelle de l'huile de Saint-Joseph. C'est la risée des esprits forts, l'huile de Saint-Joseph. Mais dans la foi de cette mère chrétienne, son enfant a été instantanément guéri. Alors, donc, la nourrice obtient comme ça sa guérison dans cette église de Sainte-Madeleine, desservie par les dominicains à Sienne. C'est connu, comme je vous ai dit, dans toute la ville de Sienne. Cette faveur qui vient évidemment de Dieu et dont l'enfant n'a absolument pas conscience, il est trop jeune. C'est pas psychologique, c'est pas psychosomatique. Et suivi de beaucoup d'autres. À mesure qu'il grandit, on voit surtout se manifester son grand désir de faire du bien et de bien faire. Ambroise de Sancédonie a une grande compassion pour les pauvres, pour les malades, pour les prisonniers. Est-ce que ça vous rappelle pas quelqu'un qui collabore ici à nos émissions et qui s'appelle Yvon Martin, qui fait une très belle émission que je vous recommande? C'est souvent magnifique, hein, du tunnel à la lumière, le dimanche à 13h. Alors, avec la permission de sa mère, Ambroise transforme une partie de la maison en une sorte d'hôpital. Sympathique, sa mère. C'est pas toutes les mères qui accepteraient que leur fils transforme une partie de la maison en hôpital. Hein. Alors, il veut étudier, puis il veut s'adonner à la théologie. Mais l'opposition qu'il rencontre le décide à prendre un parti. Alors, à 17 ans, il déclare à ses parents sa détermination d'entrer chez les frères prêcheurs, les dominicains. Il est décidé à 17 ans. Et pourquoi pas? Les parents, loin de l'en détourner, heureusement, lui remettent une forte somme d'argent qu'il s'empresse de consacrer alors au soulagement des pauvres. Puis, il voit à l'établissement aussi de quelques orphelines pour que des gens s'en occupent. Et là, il va se présenter ensuite au couvent des dominicains de Sienne. Il y reçoit l'habit, ce bel habit dominicain. Vous connaissez ça, hein? Bel habit blanc et noir, le grand manteau noir. Il y reçoit l'habit, donc, le 16 avril 1237. après l'année de probation, là, puis plusieurs années d'études, alors on l'envoie à Paris. Il suit des cours de Saint-Albert-le-Grand, le fameux Albert-le-Grand. Hein. Et puis, savez-vous avec qui il se trouve pour étudier? Il est le condisciple de Saint Thomas d'Aquin lui-même. C'est phénoménal. Hein. Alors, tout en se mettant aux études là, très, très sérieusement, il veut en même temps se rendre utile à l'Église. Puis il veut surtout travailler à ce que le plus de monde possible devienne des saints, dit-il. Alors il suit son professeur Albert le Grand à Cologne, en Allemagne. Puis, avec Thomas d'Aquin, il commence à enseigner sous sa direction. Après un séjour de 5 ans à Cologne, donc en Allemagne, le bienheureux Ambroise de Sancy-Denis, ce dominicain, il revient à Paris en 1253. Puis là, il enseigne et il explique le livre des sentences. C'était un enseignement magistral, ça, très important à l'époque, le livre des sentences. Et comme dans son enseignement de l'Écriture sainte, oui, il enseignait l'Écriture sainte, la Bible, il s'abstient de parler en maître. Il n'a pas l'intention du tout d'occuper une chaire d'enseignement. C'est un homme simple. Il veut que les gens comprennent. Il veut pas que ce soit abscon, compliqué, difficile à comprendre. Pas du tout. Il va ensuite, par obéissance, parcourir l'Allemagne. Et là, il prêche. Il a un talent de prédicateur extraordinaire. Et c'est un priant. Tout le monde est ému par sa façon de prier. Et c'est un homme qu'accompagne de nombreux miracles. Dieu fait autour de lui des miracles. Et sa présence empêche l'éclosion d'une nouvelle hérésie. C'était une époque où apparaissaient toutes sortes d'hérésies. Alors il assure à la Hongrie toutes sortes de secours parce qu'il raffermit le courage des Hongrois contre les Tartares. Il rentre finalement en Italie. Et là, il y a la guerre civile à Sienne, dans sa ville natale. Et alors, il délivre les Siennois. Comment? En rétablissant le calme, en établissant l'esprit de pardon, en rétablissant la paix chez un grand nombre de ses concitoyens qui sont surexcités. Surexcités. On voit ça ces jours-ci à la télévision. On nous passe des petits bouts d'entrevues en Ontario ou ailleurs. Mon Dieu, que je trouve que les Canadiens anglais sont surexcités au sujet du Québec. On nous parle de Yougoslavie, de toutes sortes de choses. Du calme, s'il vous plaît, mon Dieu. Et sous Grégoire X, le fameux pape Grégoire X, Ambroise est appelé à Rome pour y rétablir l'enseignement de la théologie qui était négligé par suite de toutes ces guerres, et surtout par l'absence des papes. Hein? Comment ça, l'absence des papes? C'est qu'on... Les cardinaux prenaient un temps fou à élire des papes. Pourquoi? On le voit bien par la vie du bienheureux Ambroise de Sancy-Denis. Il apporte à restaurer l'enseignement de la théologie, toute l'application dont il est capable. Puis le succès couronne ses efforts. Alors il mène de front l'enseignement et la prédication. Il parle avec force. Puis une liberté digne des premiers apôtres, puis tout ça contre la conduite irresponsable, voyez-vous, de ceux qui prolongent ce qu'on appelle la vacance du Saint-Siège, c'est-à-dire l'absence de pape. Pourquoi l'absence de pape? Ben, c'est parce qu'il y a tellement d'intérêts égoïstes et contraires à la foi qui circulent dans le monde à ce moment-là, parce qu'il y a des influences politiques, hein, qui ont pénétré le sacré collège des cardinaux. Et heureusement, aujourd'hui, hein, l'Église est vraiment libérée, je pense, des influences politiques. L'Église est aujourd'hui presque universellement, totalement libre. On le voit, hein, combien d'évêques se sont levés pour protester, combien de laïcs ont été tués durant ce siècle pour avoir protesté, sans compter tout le courage de ces prêtres. Pensez à ces jésuites assassinés, ces missionnaires québécois qui ont été assassinés. Je pense au père Lefebvre, l'abbé Lefebvre. qui a été assassiné en Amérique du Sud. Et ce père de Sainte-Croix dont je vous ai parlé plusieurs fois, Claude Simard, qui a été assassiné au Rwanda. Alors après ces voyages, le bienheureux Ambroise de Saint-Denis et a voulu se retirer parce qu'il avait beaucoup voyagé, beaucoup prêché. Il obtient ses supérieurs la permission de vivre dans le silence, puis la retraite. Alors on voit alors cet homme célèbre, vraiment célèbre par ses talents et ses actions fantastiques, remplir les plus humbles travaux dans son couvent. On appelle ça un couvent, hein, un monastère de dominicain. Il est soumis, oui, vraiment soumis, comme le dernier des religieux de la maison. Pourtant, c'est un grand savant. Les douceurs de ce qu'on appelle la contemplation, ça ne le détourne jamais du travail, quand il peut être utile à ses frères. D'autre part, les occupations extérieures au couvent ne diminuent rien de son profond recueillement. Il garde l'esprit d'un dominicain qui habite un couvent où la prière règne. Parce que dans les couvents de dominicains, en principe, ils vivent comme des moines. C'est-à-dire que la cloche sonne et les appelle au cœur devant le maître-autel. Où là, en présence de Dieu notre Père, ils s'unissent au Christ. Et de leur bouche, sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, sortent les psaumes, des grandes louanges à Dieu notre Père, à la très sainte Trinité. C'est ça, être moine. C'est vivre au creux de la Trinité, en présence du Père, qui habite d'une façon plus particulière au-dessus du maître-autel, où se rencontrent le temps et l'éternité dans le sacrifice eucharistique, dans la messe, où se rencontrent le Dieu et l'homme. C'est grand notre foi, c'est grand notre religion. Si on avait conscience quand on entre dans une église, qu'on entre dans un endroit sacré, où d'une façon fantastique, Dieu se donne à nous pour qu'on puisse se donner à lui. Dieu se donne à nous dans la personne du Fils éternel de Dieu, Jésus, pour que nous puissions nous offrir avec lui au cœur rempli d'amour de Dieu notre Père. Dans l'unité de l'Esprit-Saint, c'est ça la foi chrétienne. Et c'est ce que font les moines pendant l'office, mais plus particulièrement, évidemment, pendant leur grand messe solennelle. Alors, les occupations ne diminuent rien de son recueillement. Et combien de temps dure cette retraite dans son couvent? Certains auteurs ont dit 15 ans, mais il semble bien que ce soit plutôt 10 ans environ. Un long recueillement pour un homme aussi grand talent. Et sur la fin de ses jours, les papes font appel de nouveau à son dévouement pour rétablir la paix entre les habitants de Venise et les habitants de Gênes, les Vénitiens et les Génois. Ensuite, il doit rétablir la paix entre les habitants de Florence et ceux de Pise, les Florentins et les Pisans. Comme vous voyez, à cette époque, en Italie, on se battait. Les seigneurs, les princes, les ducs avaient des goûts de guerre et de pouvoir sans bornes. C'était pas l'union encore. Les difficultés ne manquent donc pas au bienheureux Ambroise de Saint-Denis, mais sa sagesse, son zèle, sa fermeté lui permettent finalement de triompher de tout ça. On a rapporté d'ailleurs plusieurs exemples de conversion que Dieu, dans sa miséricorde, accorde aux prières ferventes et aux exhortations du bienheureux Ambroise de Saint-Denis. Voyez-vous, la ville de Sienne, d'ailleurs, admire souvent à cette époque ces heureux changements, puis elle lui est toujours fidèle à ce bienheureux Ambroise de Saint-Denis qu'elle a comme patron. Parmi ses compatriotes, à l'époque, là-bas, il reste des désordres, évidemment, des scandales. C'est une époque difficile. Il y a des injustices à corriger. Et Ambroise de Saint-Denis, dominicain, doit terminer ses jours victime de sa charité, bien oui. C'est une mort très étrange, exceptionnelle, qui nous rappelle la mort qu'on a pu voir à la télévision il y a peu de temps, de ce grand prédicateur québécois, qui est mort en prêchant. Plusieurs d'entre vous ont dû le voir, hein, il était à Ottawa. Il est au micro, il prêche, il s'effondre et il meurt. Bien, c'est la même chose qui lui est arrivée presque. Au commencement du carême de 1286, pendant que ce bienheureux Ambroise prêchait à Sienne contre la dureté des riches, il s'abandonne tellement à l'ardeur de son zèle qu'une des veines se rompt dans sa poitrine et il rend par la bouche une grande quantité de sang. Je désire vous faire vous rendre compte, c'est évident, mais souvent on n'y pense pas. Il n'y a pas si longtemps, les prédicateurs devaient prêcher avec une voix de stentor. Pour être entendu, il n'y avait pas de système, il n'y avait pas de micro, pas de haut-parleur. C'est nouveau. Hein? Tout ce qu'il y avait au-dessus de la chair, il y avait ce qu'on appelle un abat-voix, pour abattre la voix. Hein? Et le lendemain, bien, l'hémorragie s'était calmée. Comme c'est un prédicateur plein de feu, bien, il paraît en chair pour continuer son sermon, mais la veine se rouvre. Le sang coule avec plus d'abondance que la veille. Alors Ambroise se rend compte que sa veine approche. Alors là, la consternation générale dans toute la ville de Sienne. Lui seul, tranquille et content, bien, il invite ses frères à se réjouir. Donc, pour se préparer à la mort, il fait une confession générale. Il supplie les pères dominicains de son couvent de le laisser en repos pour mieux se préparer par cette solitude à mourir en Jésus-Christ. Et enfin, muni des sacrements d'Église, et secouru évidemment par les prières de ses frères dominicains, il lève les yeux au ciel et il rend le dernier soupir le 20 mars 1286. La foule extraordinaire des fidèles fait des funérailles d'Ambroise à Sienne un véritable triomphe. Le corps déposé dans la sacristie des Dominicains y est muré pour arrêter quoi? Pour arrêter les excès de la dévotion populaire, c'est incroyable. Et là, le pape Honorius IV donne des ordres pour commencer les informations en vue d'une canonisation. Dans l'abrégé de la vie du bienheureux Ambroise de Saint-Denis, on compte jusqu'à 180 miracles. Bon. Qu'est-ce qu'on doit croire? On compte même 16 résurrections de morts. Ça peut vous sembler curieux, mais il y a souvent... Vous savez, c'est Jésus qui a dit « Vous ferez encore des choses plus extraordinaires que celles que j'ai faites. » Bien. Il y a eu des résurrections de morts, semble-t-il, véritables. On peut ne pas y croire si on veut. Ce n'est pas obligatoire. La foi, c'est pas ça. Le procès, en tous les cas, maintes fois interrompu et maintes fois repris, s'est heurté très souvent à des troubles qui régnaient en Italie. Alors, Sienne adopte Ambroise pour patron, je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis, il y a eu un bref du pape Eugène IV en 1443 qui permet à Sienne, puis à la province romaine même, de célébrer cette fête, comme celle d'un saint qui aurait été canonisé. Et enfin, Grégoire XV a étendu cette fête à tous leurs dominicains dans le monde entier. Alors, j'imagine qu'on doit le fêter chez les dominicains aujourd'hui, j'espère. La vie de ce merveilleux dominicain, Ambroise de Saint-Denis, a été écrite par 4 contemporains du bienheureux et des hommes sérieux, qui sont désignés sous le titre des 4 compilateurs des dominicains. L'un d'entre eux, de ces compilateurs, a donné aussi une autre vie avec un aperçu de ses grandes vertus et des miracles qui se sont opérés grâce à lui. Alors, dans cette deuxième demi-heure, je vais commencer par vous parler du bienheureux Battista Spagnuolo, un carme qui est mort au XVIe siècle. Je parle de ces religieux aujourd'hui parce que je trouve qu'il manque tellement de vocations religieuses. Ça peut faire naître dans le cœur d'un seul jeune homme le désir d'être un religieux averti, un religieux instruit, un religieux... profondément fidèle. Nous avons tellement besoin de prêtres et de religieux avertis, solides, convaincus, instruits. Et en voilà un encore, un autre, donc Battista Spagnuolo, SPA, Genuolo. Il est né en 1448 à Mantoue. Il appartient, disait-on, à une famille noble, originaire d'Espagne. Donc, il est né en Italie. Il fait ses premières études à Mantoue. Il fait sa philosophie à Padoue. Hein. Padoue, c'est près de Venise. Hein. Alors, à 15 ans, déjà, il est poussé par une dévotion remarquable à l'égard de Marie. Et il sollicite à 15 ans, oui, comme Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, hein. Il sollicite son admission chez les Carmes. Et il est même admis à prononcer ses vœux à la veille de ses 17 ans. Ça nous semble très jeune, mais vous savez que les gens mûrissaient peut-être plus vite à cette époque. D'autant plus, je vous le rappelle, que les gens mouraient facilement à 30, 35, 40 ans. Et alors donc, il émet ses vœux, il s'applique avec ardeur, dit-on, à faire le bien. Surtout, ce qui est remarquable chez lui, c'est qu'il gagne l'estime de chacun, de son maître en particulier, le fameux Barthélemy Fanti. Fanti, c'est le même nom de famille que le grand psychanalyste Silvio Fanti, que j'avais déjà invité à rencontre, un personnage curieux. Et ce Barthélemy Fanti était honoré, lui aussi, comme un saint. D'ailleurs, il a été béatifié. Alors, ce maître qu'il avait, Barthélemy Fanti, lui prédit qu'il va devenir un jour vicaire général de tout l'ordre des Dominicains. Vicaire général, c'est le grand chef, quoi. Le supérieur général. Alors, il est envoyé à Rome pour quelque temps. Alors, le père Battista Spagnolo fait l'admiration de tous, hein, de tout le monde. Déjà à 24 ans, il est nommé lecteur, c'est-à-dire professeur, à Bologne. À 24 ans, c'est très jeune, hein, il est nommé par le chapitre général de son ordre. C'est vraiment un personnage extraordinaire, hein? Comme nous aurions besoin de jeunes comme ça, hein? Ses succès dans les compositions poétiques le font surnommer le Virgile chrétien, mais il ne compose que des hymnes sacrés. Alors, vicaire général de la congrégation de Mantoue, il remplit avec discrétion et prudence cette charge, là, qui lui est plusieurs fois renouvelée. Et enfin, en 1513, il est nommé général, là, vraiment général de l'ordre. Et il faut l'intervention du pape Léon X pour l'obliger à accepter cette dignité. Il ne veut pas, il s'y refuse. Il accepte finalement. Alors le père Battista Spagnuolo, ou le frère, devrait-on dire, puisque ce sont des frères prêcheurs. Hein. On devrait se mettre à appeler tous les franciscains et tous les dominicains, non pas des pères, mais des frères. Il me semble que ce serait beaucoup mieux. Des frères mineurs, des frères prêcheurs. Pourquoi les appeler pères, hein? Alors, le frère Battista Spagnuolo assiste au 5e concile du Latran. Il doit, comme légat apostolique, rétablir la paix entre le roi de France et le duc de Milan. Comme quoi, il a des emplois extrêmement importants. Il travaille même à la réforme de son ordre. Toujours travailler à la réforme des ordres religieux, je crois que c'est essentiel pour le bien de l'Église. Il travaille aussi à la correction et à la rédaction du missel de son ordre. Et il meurt tout simplement le 20 mars 1516, un jeudi saint à Mantoue. Et le peuple le proclame bienheureux. Et ce qui est merveilleux, c'est que les savants rendent hommage à ses vertus, à son humilité, à sa grande science et à sa grande sagesse. Ça a pris du temps, mais Léon XIII, en 1885, a confirmé le culte immémorial qu'on lui rendait. Mais voici un autre dominicain, cette fois-ci un deuxième dominicain, un autre bienheureux, le bienheureux Maurice Xacchi. Qui est mort en 1336. C'est un personnage intéressant encore. Tout simplement. Vous savez, ça peut stimuler, ça. Ça nous stimule quand on voit ces personnages, qui ne sont pas des saints qui se sont flagellés, qui ont fait des choses épouvantables. Ce sont des saints, tout simplement. Maurice Szaky, un descendant de la famille royale de Hongrie, bien, il est né en 1281. Il avait une fièvre contractée dans le sein de sa mère. Il a eu à en souffrir pendant ses trois premières années, mais à 5 ans, on l'a confié à quelqu'un de très habile. Et la visite d'un prédicateur dominicain, qui lui raconte l'histoire de Saint Alexis, qui était très populaire à l'époque, lui inspire le dessein, finalement, de se consacrer lui-même au service de Dieu, en se retirant du monde. Mais cependant, à la mort de ses parents, il se trouve maître de plusieurs domaines. Je vous ai dit qu'il était un descendant de la famille royale de Hongrie. Alors, il y a de grandes terres, de grands domaines. Il n'est pas assez maître de lui-même pour en faire le sacrifice. Alors, ceux qui sont responsables de lui, il est tout jeune encore, ses tuteurs, là, ses parents, ses amis, ils l'influencent. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il épouse la fille d'un haut dignitaire, d'un palatin. Cette fille s'appelle Alberte de Luna. Mais voilà encore un couple qui vit dans la continence. Et au bout de 3 ans, chose assez exceptionnelle, mais qui se fait encore aujourd'hui, Maurice obtient une grande faveur de son épouse. Il obtient qu'ils se séparent pour entrer tous les deux en religion. Bon, vous direz que ça n'a pas de sens. Mais je connais un notaire à Québec qui, il y a de nombreuses années, bon, peut-être une 60aine d'années, de concert avec sa femme, était entré à la trappe et sa femme était entrée chez les trappistines. Bon, j'ai bien connu Don Adalbert de Vauguet, héritier d'une immense fortune. C'était un ermite bénédictin, un homme d'une grande sagesse, que j'ai eu la chance d'inviter à l'émission Rencontre que je faisais à la télévision. Son frère, marquis de Vauguet, occupait le château de Vaux-le-Vicomte, qui est probablement, à mon avis, le plus beau château habité au monde, oui, du moins en Occident, au sud de Paris. Eh bien, leurs parents, le marquis de Vauguet et sa femme, se sont séparés en 1956, et cet homme extrêmement puissant et très riche, après le mariage de sa dernière fille qui a épousé un prince allemand, on a des photos, ça a été filmé, ça a été photographié, on a vu ça évidemment dans Paris Match, dans Point de vue, mais aussi dans Time Magazine, Newsweek, etc., etc., ça fait le tour du monde. Quand ce marquis de Vauguet, le père de ce moine et de cet autre fils et d'autres enfants, puisqu'ils en avaient 9 enfants, eh bien, ils sont entrés, lui, chez les bénédictins de la pierre qui vire, où il est allé rejoindre son fils moine ermite, et sa femme est entrée chez les petites sœurs des pauvres, mais elle a eu de la difficulté, puis elle est entrée finalement chez les bénédictines. Peut-être beaucoup pour faire plaisir à son mari, mais de toute façon, ils sont devenus bénédictins et bénédictines. Des gens très riches qui avaient d'innombrables serviteurs. 1956. Alors, sa femme, notre bienheureux Maurice Szaky, Alberte de Luna, entre dans un couvent de dominicaines. Maurice Szaky, lui, reçoit l'habit des frères prêcheurs, des dominicains, dans le couvent de l'île Sainte-Marguerite sur le Danube. Mais le beau-père, le palatin, là, le beau-père de Maurice, il est indigné de cette conduite. Alors, il charge le gouverneur de Bude, qui s'appelait Ladislas, d'arracher son gendre à sa retraite. Alors, Ladislas obéit. Et puis, il tient Maurice, qui était entré au couvent des Dominicains, il l'arrache là, il l'enferme dans une tour pendant 6 mois. N'oubliez pas, là, nous sommes au 14e siècle. Alors, notre bienheureux, lui, demeure ferme dans toutes ces tentations-là. Il est libéré, puis finalement, il peut prononcer ses vœux de Dominicain. Pendant 3 ans, il vit au couvent de Bologne, en Italie, où il édifie ses frères par son esprit de détachement, lui qui était si riche. Et sa mortification aussi, une sainte mortification simple, pas, c'est rien d'exagéré. Surtout, ce qui épate tout le monde, c'est sa profonde humilité. Je me souviens comme la profonde humilité de Don Adalbert de Vauguet m'avait frappé. Cet homme si riche, si puissant. Et j'avais rencontré son père aussi, qui était moine, au monastère de La Pierre-qui-Vire, ça faisait quoi, une dizaine d'années qu'il était là, il était prêtre, son père, et qui travaillait au pic dans les champs. Lui qui payait avec sa fortune une irrigation fantastique pour amener de l'eau au monastère. Ça coûtait une fortune, tout ça. Eh bien, ce moine prêtre, devenu, qui était père de famille, qui était devenu prêtre, qui était âgé, travaillait au pic et à la pelle. J'étais ému, très ému, quand j'ai vu ça. Ce sont des choses qu'on voit et qu'on ne peut jamais oublier. Je n'oublierai jamais. Alors, on permet à l'épouse de Maurice Xaki, là, Albert de Luna, de prononcer ses vœux. Et alors, le bienheureux Maurice peut rentrer en Hongrie, où il contribue puissamment à rétablir la paix qui était troublée depuis plusieurs années, puis là, il obtient ce résultat par sa prudence. Par ses conseils, c'était un homme sage, et aussi par ses prédications. Ses discours, d'ailleurs, sont toujours animés d'une grande charité. C'est ce que les témoins de sa vie racontent. Et ses paroles étaient pleines de douceur. Et ses paroles avaient une vertu particulière pour réconcilier les ennemis. Il réussit également à consoler des malades, des affligés. C'est une fonction vers laquelle il se porte de plus en plus, de préférence. Et pour s'assurer à la fois, si on peut dire, de pouvoir se mortifier et de pouvoir pratiquer la charité, il se fait autoriser par ses supérieurs à partager avec les pauvres son repas de pauvres. Le don des miracles dont Dieu le favorise lui vaut d'exercer un très grand ascendant sur les gens de son entourage. Il en profite d'ailleurs pour les porter à faire le bien. Et c'est pour ça que Dieu accomplit certains miracles. Dieu n'accomplit pas des miracles pour nous épater et pour qu'on en parle. Quand Dieu accomplit des miracles, et j'en ai été témoin quelquefois, c'est pas pour qu'on saute et qu'on danse. C'est pour qu'on adore et qu'on aille vers les autres pour faire du bien. Au nom de Dieu, au nom du Christ. Il n'y a pas d'autre raison pour les miracles. C'est pour nous stimuler, pour nous encourager. Le comte Nicolas, son neveu, à qui il a donné la meilleure partie de ses grands domaines, à condition de soutenir la communauté où s'était retirée la princesse Alberte, la communauté de Dominicaine, est infidèle à ses engagements. Et il déclare au père, au frère Maurice Dominicain, qu'il ne veut plus rien donner. Eh bien, réplique Maurice, et vous ne donnerez rien, mais vous mourrez cette année, je le sais, et un autre s'acquittera de ce devoir. Et c'est ce qui s'accomplit. Le comte Nicolas, son neveu, meurt et ses héritiers, remplis de crainte, vont remplir évidemment les conditions demandées par le bienheureux Maurice. Ce bienheureux Maurice Xaki, ça s'appelle d'une curieuse façon, hein, C-S-A-K-Y. Eh bien, le bienheureux Maurice est mort peu de temps après, le 20 mars 1336. On raconte sérieusement que les miracles se sont opérés pendant sa vie après sa mort. On fait qu'on lui a donné publiquement, sans procès, le titre de bienheureux. Il y a un ancien martyrologe dominicain qui mentionne le culte qui était rendu au bienheureux Maurice par les Hongrois. Alors j'en profite pour saluer ce grand peuple hongrois, grand peuple catholique, car nous avons de nombreux Hongrois à Montréal qui ont eu beaucoup à souffrir. Ceux d'un certain âge se souviennent des soulèvements en Hongrie contre le communisme et combien ces gens ont eu à souffrir. Eh bien, c'est aujourd'hui un peu leur fête, la fête du bienheureux Maurice Xaki. Comme je vous ai parlé tout à l'heure de Sainte Photine, qui serait d'après les Grecs la Samaritaine que Jésus a rencontrée en Samarie, au puits, eh bien, je voudrais revenir sur elle un peu. En vous lisant un beau texte du père Bernard Cesbouet, un jésuite, toujours vivant, que j'ai eu la chance aussi d'inviter à l'émission Rencontre à la télévision, il écrit « Un Dieu qui aime vraiment les hommes ». Je vous lis ce beau texte. Quoi qu'il en soit de ses motifs, le fait de l'incroyance contemporaine invite les chrétiens à s'interroger sérieusement sur le sens de Dieu que véhiculent leurs paroles et leurs comportements. Il y a le Dieu simple mécanicien du monde, le Dieu dont la paternité arbitraire se plaît dans l'écrasement infantile de l'homme, le Dieu qui se venge cruellement de la faiblesse et du mal, le Dieu gendarme, le Dieu qui interdit tout espace de liberté et qui se satisfait de l'hommage de ses esclaves. Ce sont des caricatures, sans doute, mais certains de leurs traits ont obscurci la révélation du Dieu de Jésus-Christ, celui qui libère, celui qui sauve. Notre Dieu, c'est celui qui a libéré son peuple du pays d'Égypte à main forte et à bras étendus. Ainsi, annonçait-il que la libération définitive du mal et du péché se ferait sur la croix de son Fils, où la toute-puissance de sa main forte deviendrait la suprême et glorieuse faiblesse des deux bras étendus sur le bois. Il est le Dieu amoureux des hommes, le Dieu philanthrope des pères de l'Église, un Dieu qui s'abaisse et s'anéantit, un Dieu humain, et même un Dieu humble. En Jésus, il s'invite à notre table, afin de nous inviter lui-même à la table de l'Eucharistie. Dans le Christ, c'est le secret de la vie de Dieu qui se déchire. C'est un Fils aimant, mais debout, qui nous révèle un Père qui fait vivre. Un Père qui met sa gloire dans l'homme vivant, parce que la vie de l'homme consiste à le voir et à communier avec lui. Son étrange proximité n'enlève rien à sa transcendance inépuisable que nous ne pouvons jamais manipuler à notre guise. Si nous pouvons être porteurs de la révélation de Dieu à notre temps, n'avons-nous pas encore à nous convertir à la révélation évangélique du Dieu de Jésus-Christ? Foi exposée aujourd'hui, foi vulnérable, foi fraternelle envers tout homme, humble et joyeuse, priant le Seigneur de venir au secours de sa faiblesse. Foi qui saura rendre témoignage que l'Évangile met le croyant dans la vérité et la liberté, le rendant apte à communier à toute question montée au cœur de l'homme. Un chrétien n'est jamais étranger à ce qui se passe dans cette société. On ne se retire pas au fond de sa chambre ou de sa sacristie. On s'engage. À la Samaritaine, qui lui dit « Comment toi, un juif, tu demandes à boire à moi, à une Samaritaine ?» Et il lui répond « Si tu savais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », eh bien c'est toi qui l'en aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est ce que Jésus nous donne, de l'eau vive. Tout, quand on réfléchit, tout, absolument tout, sous forme de don, vient de Dieu. Il est créateur de l'univers, tout a été fait par lui, par Jésus, par le Fils éternel, créateur de l'univers, conservateur et providence des êtres créés. C'est lui qui nous garde. C'est une intarissable joie pour chacun d'entre nous qui voulons vraiment le servir, l'aimer. Il donne à Abraham et à sa postérité la terre de Canaan, on le sait dans l'histoire sainte. Il donne à Moïse et à son peuple l'alliance avec sa loi et ses bénédictions. Il donne aussi au peuple élu, aux Juifs, sa présence, ses libérateurs, ses prophètes et ses sages. Tous ces dons annoncent et préparent quoi? Mais les dons définitifs que nous connaissons grâce au Nouveau Testament. Quel dommage que des Juifs aient refusé. Mais heureusement que de nombreux Juifs les ont acceptés, ces dons définitifs du Nouveau Testament, et nous devons notre foi aux 5 ou 10 000 Juifs qui ont cru au début de l'Église. Le premier don du Nouveau Testament, bien, c'est Jésus lui-même, rempli des richesses de son Père. Les paroles, les œuvres, le pouvoir de vivifier et de juger, puis le reflet de sa gloire lumineuse, puis l'effigie de sa substance. Jésus qui est l'apôtre de Dieu. Jésus-Christ donne sa chair et son sang en aliment. Il nous nourrit. C'est pour ça que je vous invite à aller à la messe, même aujourd'hui s'il fait mauvais. Si vous aviez un billet pour aller à l'opéra de $60, vous y iriez à l'opéra, hein? Mais vous avez un billet d'1 000 000 pour aller à la messe aujourd'hui. Jésus-Christ donne sa chair et son sang en aliment. Sa vie. Oui, sa vie. Pour nous libérer, pour nous faire vivre. Son corps mystique en gage de salut. En gage d'unité, en gage de bonheur. Il promet. Et avec le Père, il envoie le don par excellence, qui est l'Esprit-Saint. C'est une vie nouvelle que l'Esprit greffe sur le rythme de la vie humaine. Il perfectionne notre vie, l'Esprit-Saint. C'est ainsi que l'Esprit habite l'Église, c'est l'Esprit de Jésus. C'est ça que Jésus raconte à Sainte Photine, cette Samaritaine. C'est ce qu'il a raconté il y a près de 2 000 ans, et qui est toujours une vérité vivante, hein, à laquelle, si nous n'y croyons pas, eh bien nous perdons tout. Nous perdons tout ce qui fait vivre, tout ce qui rend heureux, tout ce qui fait les saints dont je vous ai raconté la vie aujourd'hui.